sur Via 95. C'est le parc en 30 minutes. L'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Bonjour tout le monde et bienvenue à cette toute nouvelle émission sur les ondes de Via 95. Le parc en 30 minutes, une présentation en collaboration avec la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Un long titre, la SPIB, communément appelé. Mon nom donc est Marc Rochette, ancien journaliste du Nouvelliste pendant 35 ans, donc familier sur le territoire de Bécancour, ayant couvert l'actualité sur la Rive-Sud pendant de nombreuses années. Donc j'aurai le plaisir d'être votre animateur pour ce rendez-vous hebdomadaire chaque lundi midi. Et peut-être pour expliquer rapidement la formule de l'émission, bien le premier bloc de l'émission nous permettra non seulement de traiter d'un sujet en particulier, mais aussi de revenir sur l'actualité concernant le parc industriel de Bécancour. Et la beauté de cette émission, sachez-le, c'est que vous aurez l'occasion de poser vos questions par rapport à tout ce qui se passe dans le parc industriel de Bécancour. Et comment nous rejoindre? En allant tout simplement sur le site via.fm, onglet le parc en 30 minutes, et vous cliquez sur « Poser vos questions » ou sinon par texto au 819-519-9050, 819-519-9050. Mais n'ayez crainte, ce n'est pas moi qui vais répondre à vos questions, c'est quelqu'un de beaucoup plus qualifié que moi, et parce que à chaque émission, on aura le privilège d'avoir dans nos studios nul autre que le président-directeur général de la SPIB, Donald Olivier, que je salue immédiatement. Bonjour, Donald.
Bonjour, Marc. Très content d'être là.
Ben oui, on est vraiment fébrile hein, de commencer cette nouvelle série d'émissions sur le parc industriel de Bécancour. Donc, on s'est entendu, Donald, pour se tutoyer, puisqu'on se connaît depuis un certain temps. Et on veut vraiment donner un ton convivial à nos discussions. Puis, d'ailleurs, la première question qui me vient à l'esprit, pourquoi une telle émission?
Bien, assurément, il y a plein de questions que les gens se posent par rapport à ce qui se passe à Bécancour. Et puis, c'est sûr qu'il faut tenter d'informer le plus possible les gens. Et il y a comme une limite aussi à ce qu'on peut faire avec les moyens traditionnels. Donc, c'est sûr qu'avec cette opportunité-là, d'avoir cette émission-là, bien, ce qu'on souhaite, c'est vraiment parler de ce qui se passe. Vraiment parler de ce qui se passe, ça va quand même vite. Les gens ont parfois des questions. Il y a parfois des trucs qui s'écrivent dans les journaux aussi. Et puis, il ne faut pas oublier que, bien qu'il y ait la filière batterie qui arrive, il y a quand même aussi des activités qui étaient là avant. Fait que donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une tribune pour tenter de répondre aux questions des gens. Parfois, des rumeurs qui sont fondées, d'autres ne sont pas fondées. Donc, je serai là pour tenter d'avancer dans ces sujets-là au fil des semaines.
D'ailleurs, d'entrée de jeu, pour revenir sur l'actualité, il y a quand même des bonnes nouvelles toutes récentes dans le parc industriel. Si on pense à la fin de la grève à l'usine Viterra, comment on réagit lorsqu'on voit une usine ou une entreprise du parc régler son conflit de travail?
Ouais, c'est toujours intéressant. Évidemment, quand on entend qu'il y a une grève, on n'a pas de rôle. Hein? C'est vraiment les deux parties qui doivent s'entendre, mais c'est jamais intéressant pour personne de voir qu'il y a un conflit de travail dans une usine quelconque. Donc, c'est sûr que de voir que ça s'est réglé, puis c'est quand même à 78%, je pense que ça a été accepté par les travailleurs. Fait que je trouve que c'est quand même un bon signal. Et je crois qu'il était de retour au travail dès ce matin. Fait que donc, c'est une très bonne nouvelle.
Donc, on commence bien notre série d'émissions avec des bonnes nouvelles. Puis oui. Une autre bonne nouvelle aussi, par rapport à ce qu'on appelle la future usine Ford, il y a eu quand même des arrêts du chantier au cours des derniers mois. On parle de reprise du chantier.
Oui, reprise du chantier. Donc, il y avait eu une pause au mois de mai. Donc, la pause a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu une autre pause aussi tout récemment au mois d'août. Et il y a une reprise graduelle des travaux. Donc, ceux qui passent le voile, ils sont rendus pas mal à la structure d'acier. Donc, structure d'acier, revêtement. Fait que il y a des retours au travail progressivement cette semaine. Donc, je crois que milieu, fin de la semaine, les grues devraient se remettre à bouger et assurément la semaine prochaine, c'est leur plan. Donc, il faut remobiliser les travailleurs. Rappelons-nous qu'il y avait un enjeu technique, revoir un peu le procédé par rapport à la chimie de batterie. Donc, ils avaient pris un temps d'arrêt pour ça, mais assurément, puis ils pourront le dire eux-mêmes, là, mais assurément, nous, les signaux qu'on a sont, ils croient à Bécancour et sont motivés à terminer leur projet pour faire une mise en service le plus vite possible.
Parce que ce qui défraie la manchette dans les dernières semaines, c'est évidemment les problèmes avec Nordvolt et suppression d'emplois, je pense, qui a été annoncé ce matin. Donc, souvent, les gens, ce qu'ils retiennent, c'est la filière batterie, Nordvolt, ça va pas bien, mais lorsqu'on revient chez nous à Bécancour, dans le parc industriel de Bécancour, on regarde, bon, Ford qui a eu ses arrêts temporaires, mais là, il y a une reprise du chantier, puis on aura l'occasion, possiblement la semaine prochaine d'ailleurs, de consacrer l'émission à la filière batterie, puis pourquoi on a choisi Bécancour. Donc, malgré les mauvaises nouvelles, la mauvaise presse, si on peut dire, sur la filière batterie dans les dernières semaines, il n'en demeure pas moins qu'à Bécancour, ta lecture, Donald, c'est quand même, ça roule assez bien.
Ben, les cinq projets, il y a cinq projets en construction, donc Ultium Cam, Nemaska Lithium, Matériaux Avanciers Mirae, EcoPro, donc on parle souvent de Ford, mais c'est EcoPro Canada, okay. Et puis Air Liquide. Fait que, donc ces projets-là, ceux qui passent là tous les jours les voient, là, donc c'est vraiment, ça roule rondement. Et puis c'est sûr que il y a beaucoup, Nordvolt a beaucoup d'attention pour plein de raisons. Et puis, nous, à Bécancour, l'important, c'est de réussir. Hein, peu importe l'attention médiatique ou pas, l'important, c'est que les projets avancent et puis qu'on réussisse à terme.
Donald, on va traiter un petit peu aujourd'hui de l'histoire du parc, mais avant de tomber dans l'historique du parc industriel, ton histoire à toi, c'est que beaucoup te connaissent, évidemment, mais il y en a peut-être qui ne savent pas que tu es un gars du coin.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai grandi majoritairement à Gentilly. Donc, mes parents sont arrivés... je suis né en 69, on est arrivé en 70. Donc, toute l'école primaire, secondaire, j'ai fait ça dans la région, à Saint-Pierre-les-Béquelles, secondaire. Évidemment, je jouais au hockey mineur avec des gens de la région, mais parfois contre des gens de la région. À l'époque, c'était chaque petit secteur, les villages, on a fait chacun de nos équipes. Et puis, j'ai étudié au cégep de Trois-Rivières. Par la suite, j'ai fait mon cours en génie à Montréal. Et ce qui est quand même, tu sais, quand tu es jeune, tu ne réalises pas tout ça, mais c'est quand même le parc qui a attiré ma famille à Bécancour. Ah oui. Donc, mon père était mécanicien de chantier sur la construction et allait beaucoup dans le Nord à l'époque. Puis, dynamique familiale un peu difficile avec des jeunes enfants. Moi et ma sœur, on était deux à ce moment-là. Donc, l'idée de venir s'établir, parce qu'on était davantage du côté du comté de Lobinière. D'accord. Donc, l'idée de venir à Gentilly, c'était... Le parc était tout justement créé avec quelques usines qui commençaient. Donc, c'était d'avoir du travail à côté de la maison. Fait que, puis ma mère avait un commerce aussi, Puis ça a été aussi intéressant. Il n'y a pas de petites retombées. Hein? Il n'y a pas de petites retombées quand il y a des entreprises comme ça qui arrivent. Peu importe les commandes dans le milieu, ça fait une différence pour les gens locaux. Fait que, donc, moi, c'est sûr que j'ai réalisé au fil du temps que pourquoi je suis ici, c'est parce que ma famille a choisi de venir ici à cause du parc. Il y a probablement d'autres familles dans le futur qui feront ce genre de décision-là. Avec toute l'effervescence qui arrive à Bécancour.
Donc, dans ta jeunesse, tu n'aurais pas nécessairement imaginé qu'un jour tu serais le grand patron de cette société du parc industriel de Bécancour. Comment le petit gars de Gentilly, quel cheminement extraordinaire quand même de parvenir à avoir cette position qui est névralgique parce qu'on sait que le parc industriel de Bécancour, oui, c'est important pour Bécancour, la région du centre du Québec, la Mauricie, mais pour tout le Québec aussi. Donc, comment un petit gars gentil réussit à se retrouver à cette position-là?
Ben, c'est une bonne question. Puis on m'aurait dit ça à l'époque, j'y aurais pas cru. Puis comme plein de gens, je savais pas à ce moment-là ce que c'était que la Société du parc. Là. Mm-hmm. Donc on confond, on sait pas trop ce que c'est. C'est-tu la ville, c'est-tu autre chose? Donc c'est sûr ce qui amène là. En tout cas, dans mon cas, j'avais pas nécessairement de plan précis. Mais j'ai travaillé dans le parc au début quand j'ai fini l'université pour entrepreneur dans le parc industriel. Après ça, j'ai été en développement logiciel pour la gestion des infrastructures municipales. Et après ça, j'ai atterri Hydro-Québec. Fait que donc, j'ai fait plein de choses en région, construire des barrages, démanteler des barrages, en réhabiliter. Et puis, j'ai fait un saut aussi. Pendant 5 ans, j'avais le poste de direction pour la fermeture de Gentilly 2. 2015 à 2020, je pense que c'est ça qui m'a quand même bien préparé à cette job-là. Un projet quand même très, très challengeant, là, t'sais, de fermer une centrale nucléaire, donc c'est pas commun, mais aussi un défi humain, défi avec le milieu aussi. Je pense que c'est ça qui m'a aidé à me préparer parce que j'avais pas de plan de match, mais j'ai toujours voulu faire une différence quand j'étais dans une équipe, t'sais. Fait, peu importe le rôle que j'avais, fait que je pense que c'est ça qui a fait que j'ai été remarqué. Et je me suis... Cette job-là, tu sais, moi, quand j'ai vu tout ça qui s'en venait, je souhaitais l'avoir. Donc, je ne suis pas gêné de dire qu'on ne m'a pas appelé. Là, j'ai levé la main, j'ai signifié de l'intérêt. Et puis, je suis très content de l'avoir aujourd'hui. Très content. Je considère que c'est un privilège. Tu sais, je considère que c'est un privilège. Pour moi, c'est un super projet, puis il est dans ma cour. Et puis, c'est sûr que ça a une influence pour la région. Ça aura une influence aussi pour plusieurs décennies, probablement.
Parce que gérer une décroissance, une fermeture comme Gentilly 2, on apprend des leçons comme gestionnaire, qui sont applicables Pour gérer une croissance aussi, j'imagine.
Oui, oui, parce que finalement, on s'en aperçoit encore plus quand c'est une décroissance, mais gérer, c'est beaucoup gérer l'humain. Hein. Donc, diriger des équipes, gérer l'humain, tout ça. Assurément, il y a un côté plus, je vais dire, plus positif à gérer une croissance. Et puis, c'est sûr que j'ai appris beaucoup de gérer cette décroissance-là. Il y a encore des gens là. Hein. Faut pas penser que c'est terminé. Fait que donc, il y a encore des activités là. Mais c'est sûr que je suis vraiment content du privilège qui m'est donné d'être actif dans ce nouveau dossier-là avec la Société du Parc.
Donc, PDG depuis 2 ans à peu près,
j'imagine? Un peu plus de 2 ans, là, mai 2022.
Donc, depuis 2 ans. Puis depuis 2 ans, depuis une couple d'années, on entend parler beaucoup du parc industriel de Bécancour, mais on tend à oublier que le parc existe depuis une cinquantaine d'années au-delà. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants pour expliquer dans quel contexte le parc industriel a pris naissance dans les années 60, peut-être?
Oui, oui. Écoute, je pense que c'est bien de le faire parce qu'on passe, on voit des usines, mais c'est peut-être important de comprendre aussi comment tout ça est arrivé. Première chose, c'est que c'est une société d'État. Donc, la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, qu'on va appeler la SPIB, parce que le nom est très long, mais c'est une société d'État, donc, qui relève d'un conseil d'administration et tout ça. Donc, c'est pas, évidemment, c'est pas la même envergure qu'Hydro-Québec, mais au niveau légal, il y a des similitudes. Donc, on est une société d'État qui a son propre plan stratégique et ses propres objectifs. Et puis, évidemment, dans les années 60, c'est le gouvernement qui regardait et qui tentait de trouver un site pour accueillir l'industrie sidérurgique. Donc, ça a pris quelques années, mais Bécancour était ciblé pour accueillir la sidérurgie. Donc, ce qui est arrivé, c'est que la construction du pont La Violette, la fusion des 6 villes à la ville de Bécancour et la création de la SPIB à l'époque. Et puis, donc, c'est dans les années 60, tout ça. T'sais, donc, c'est plus de 50 ans que la SPIB existe. Fait que les chemins, mettons, les destinées de la ville et de la SPIB sont intimement liés, on s'entend. Elles l'étaient et ils le sont encore. Et puis, donc, au fil des années, par la suite, les usines sont arrivées. Donc, la création du parc, ça s'est fait par achat de gré à gré. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Mm-hmm. Donc, j'étais quand même heureux de constater ça, qu'il n'y avait pas eu de...
Il n'y a pas eu d'expropriation.
Ben, il n'y a pas eu de tiraillement. Il y a peut-être eu des tiraillements, parce que c'est toujours difficile de quitter une propriété, même si tu acceptes de la vendre et que tu n'as pas été exproprié. Mais il n'y a pas eu de bras de fer d'expropriation à l'époque. Les gens, ce que j'ai compris, les cultivateurs à l'époque avaient souvent 2 emplois. Donc, ça a donné une latitude financière pour peut-être se consacrer à l'autre emploi qu'ils avaient. Donc, c'est vraiment ça qui a été... Ça a été créé dans les années 70. Beaucoup d'infrastructures qui ont été construites et puis qu'on a amélioré au fil du temps.
Évidemment, lorsqu'on parle de l'histoire du parc industriel, bon, l'usine ou l'entreprise qui nous vient à l'esprit, c'est l'aluminerie de Bécancour, l'ABI, qui a été un gros joueur, qui est arrivé dans le décor à un moment donné, puis encore en 2024, ça reste un gros joueur. Mais dans quelle mesure l'ABI a marqué l'histoire du parc, justement?
Bien, il y a eu des usines dans les années 70, donc Biragui, SKW, CIL, certaines ont changé de nom, mais il y avait quand même des projets, même les projets d'Hydro-Québec, mais l'ABI a été celle qui a bien, c'est encore la plus importante aujourd'hui. Hein, c'est la plus importante usine en termes d'emploi, en termes de production et tout ça. Et puis, donc, dans les années 80, ça a comme un peu confirmé la crédibilité de Bécancour comme parc industriel. Et puis moi, j'étais adolescent, jeune adulte à ce moment-là, puis tu sais, on le voyait, tu sais, à Gentil, on voyait vraiment qu'il y avait une effervescence dans le village. Beaucoup, beaucoup, les gens louaient des chambres, il y avait plein d'entrepreneurs qui se promenaient, des sous-traitants. Donc, c'est sûr qu'il y a eu ce projet-là, l'ABI, il y a aussi Norsk Hydro qui a suivi pas longtemps après. Donc, vraiment, ces deux usines-là ont été vraiment déterminantes, je pense, dans la crédibilité de Bécancour comme parc industriel reconnu.
Parce que j'écoutais le balado, justement, Bécancour, raconte-moi l'énergie d'ici, d'ailleurs disponible sur fbbécancour.com. Puis j'avais appris aussi, en écoutant ce balado-là, que, bon, des fermetures comme Norsk Hydro, Gentilly 2, bon, même si ça a été dommage lorsque c'est arrivé, il y a eu quand même du positif qui en est découlé au niveau des infrastructures. Pourrais-tu nous en parler un petit peu? C'est dans quelle mesure des grandes fermetures comme ça, on peut y tirer quand même du positif, là?
Ouais, donc, évidemment, quand ça arrive, tu ne penses pas à ça. Hein? Tu penses beaucoup plus les gens qui perdent leur emploi et tout ça. Puis c'est quand même au niveau humain, c'est quand même pas évident. Tu sais, les gens qui doivent se relocaliser. Puis c'est sûr qu'au niveau retombée économique, il y avait un impact important. Puis anecdote ou en tout cas réalité, là, c'est j'ai des anciens collègues avec qui je travaillais à Gentilly 2 qui avaient vécu la fermeture de Norsk Hydro, qui s'était relocalisé à Gentilly 2.
Double fermeture, double perte d'emploi.
Oui, qui revivait un peu, qui rejoint un peu dans le même film. Là. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu différent parce que Gentilly, il y a encore des activités. Ça n'avait pas été un démantèlement tout de suite. Mais ce qu'il y a eu, que, l'effet, dans le fond, ce qui reste de ces usines-là, c'est certaines infrastructures. Je donne l'exemple de Norsk Hydro. Norsk Hydro avait besoin d'eau industrielle pour son procédé. Donc, assurément, la station de pompage avait été augmentée pour répondre à leurs besoins. Fait que donc, c'est sûr qu'une fois que l'usine est construite et qu'on n'a plus besoin de cette quantité-là, d'eau-là, bien, la quantité d'eau devient disponible. Et donc, l'opportunité qu'on avait avec la filière batterie, c'est qu'ils ont besoin d'eau industrielle. Fait que donc, cet actif-là, c'est un exemple, existait. Il y a aussi des infrastructures au niveau électrique qui sont robustes, qui sont reliées aussi au passage de ces deux usines-là.
Des bons exemples, en tout cas, bon, que c'est un mal pour un bien, dans le sens, bon, évidemment, les fermetures, c'est déplorable, mais au moins, si les infrastructures peuvent servir en 2024 pour d'autres entreprises, bien, c'est tant mieux. Alors, on va aller en pause et après la pause, on verra si on a reçu des questions du public. Donc, on vous invite d'ailleurs à écrire pour nous rejoindre via .fm, onglet Le Parc en 30 minutes et vous cliquez sur « Poser vos questions », sinon par texto au 819-519-9050, 819-519-9050. Écrivez-nous, posez-nous vos questions et on revient après la pause.
Retour à l'émission Le Parc en 30 minutes avec Marc Rochette.
On est toujours en compagnie de Donald Olivier, président directeur général de la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour. Donc, on avait amorcé ces échanges sur l'historique du parc. Et avant d'y aller avec les questions du public, peut-être justement en parlant du parc, c'est quand même un grand parc. Souvent, on a l'impression, je pense que... Lorsqu'on regarde sur une carte, c'est peut-être pas ça qui donne, mais peux-tu nous parler de la grandeur du parc, puis peut-être aussi évoquer le nombre d'entreprises approximatives, puis aussi le nombre d'emplois que ça crée aussi? Là.
Oui, donc, pour donner des chiffres, la ville de Bécancour, c'est environ 440 km². Donc, la ville en entier, la limite légale de la Société du parc, c'est 70 km². Et puis, il y a 2700, je vais reprendre les chiffres, là, 70 km² la surface du parc et 27 km² de zonage industriel lourd.
D'accord.
Donc, 27 km² de zonage industriel lourd, ça veut dire déjà on peut faire des activités d'industrie lourde. Fait que donc, je fais différentes présentations, parfois à différents joueurs, et quelqu'un m'avait déjà dit « Hey, ma ville n'est pas aussi grande que le territoire du parc ». Donc, c'est quand même assez important. Et puis, en termes de nombre d'entreprises, c'est environ une trentaine d'entreprises qui sont dans le parc. Et puis, entreprises, évidemment, il y a les gros joueurs industriels qu'on connaît, ceux de base, le ABI, CEPSA, Olin et tous ceux-là. Et puis, il y a quand même beaucoup d'entreprises de services. Donc, une trentaine d'entreprises. Puis, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui opèrent au port. Donc, on parle d'environ 2500 travailleurs, 2500 emplois directs. La filière batterie, à terme, ce qui est prévu, c'est qu'on pourrait atteindre un autre 2500. Donc, on pourrait, dans 5, 6, 7, 8 ans, peut-être doubler le nombre d'emplois directs qu'il y a actuellement dans le parc.
On a reçu des questions du public, donc on va y aller avec une première question, Donald. Bon, on a évoqué le fait que, bon, le parc est une société d'État, donc ça relève du gouvernement. Donc, c'est quoi la relation, peut-être au quotidien, entre Donald Olivier et le gouvernement ou le fonctionnement de la direction du parc versus... le ministère de l'Économie, par exemple. Donc, peut-être nous démystifier un petit peu de la relation entre toi et le gouvernement, dans le fond.
Oui, parfait. Bonne question. Donc, faut savoir que la Société du parc, moi, je relève d'un conseil d'administration. Donc, d'accord. Il y a plusieurs personnes sur le conseil d'administration, 8 personnes issues de différents milieux. Les conseils d'administration plusieurs fois par année. Fait que le plan stratégique et toutes les décisions doivent être entérinées par le conseil d'administration. Et puis, c'est eux qui m'ont embauché. Donc, évidemment, leur rôle, c'est de diriger la société d'État. Mais moi, je suis au niveau des opérations. Eux, on doit s'arrimer ensemble sur les stratégies et tout ça. Fait que donc, puis le quotidien, c'est beaucoup avec mes collègues du ministère de l'Économie puis d'Investissement Québec. Donc, là, il y a eu un changement de ministre récemment. Le ministre Fitzgibbon a quitté, la ministre Fréchette arrive. Donc, pour nous, au quotidien, les joueurs clés du ministère de l'Économie et d'Investissement Québec qui ont participé à l'élaboration de la filière batterie, ben, ils sont toujours en poste. T'sais, ils sont toujours en poste. Fait que donc, moi, ça n'a pas changé mes interlocuteurs. La personne, le sous-ministre qui travaillait beaucoup avec nous à l'époque, était sous-ministre adjoint, est rendu sous-ministre actuellement, Jonathan Gignac. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours dans le dossier, assurément, avec nous. Fait que donc, pour nous, au quotidien, c'est beaucoup des rencontres avec Investissement Québec et puis le ministère de l'Économie pour faire avancer les dossiers. Donc, peu de liens avec, évidemment, quand il y a des annonces, tous les gens s'amènent pour faire des annonces et tout ça, mais au quotidien, c'est beaucoup avec les employés du ministère de l'Économie.
Donc, la nouvelle ministre, tôt ou tard, vous allez la rencontrer, on présume?
Oui, oui, puis c'est sûr que j'anticipe qu'elle devrait venir à Bécancour quand même assez rapidement, parce que pour Bécancour, faut comme le voir aussi, Bécancour, pour le comprendre, là. Donc, de présenter ce qui se passe à Bécancour sur une carte ou juste au téléphone, c'est pas comme le voir, là. Mm-hmm. Souvent, quand les gens voient Bécancour sur une carte, ils disent « Ah, je pensais que c'était plus grand que ça ». Mais quand ils embarquent dans l'auto ou dans l'autobus pour rouler Bécancour, le parc, ils disent « Ah, crime, c'est donc bien grand. Je pensais pas que c'était si grand que ça ». Fait que donc, il y a toujours une question de voir ça en réalité, que ça l'aide à comprendre.
Mais est-ce qu'actuellement, il reste de la place dans le parc pour développer ou c'est à pleine capacité?
Ah non, il reste de la place. Il reste de la place, là. C'est, mettons, évidemment, il y a toujours des enjeux de le terrain. On peut-tu développer au complet ou pas? Mais je vous dirais, c'est de l'ordre de 600 hectares là, qui reste de terrain disponible. Donc, 600 hectares, pour les gens, c'est peut-être dur de relativiser ce que c'est, mais dites-vous que le site de Nemaska Lithium, exemple, c'est environ une cinquantaine d'hectares. Donc là, il en reste 600 à 700 hectares de terrain disponible. Donc, c'est sûr que la contrainte ou le rythme de développement du parc va être plus dicté par l'énergie, par les mégawatts que par les pieds carrés.
Une bonne question, d'ailleurs, qui nous venait de Mathilde Lafrenière de Sainte-Perpétue, hein, qui s'informait sur est-ce qu'il reste de la place dans le parc. Donc, c'est une question très intéressante du public. Autre question du public aussi, bon, on parle des infrastructures, justement. Bon, est-ce qu'il y a de la place? Oui, il y a de la place. Est-ce que les infrastructures sont suffisantes pour le développement à venir, entre autres, de la filière batterie? Est-ce que ça, c'est une préoccupation, les infrastructures? Est-ce qu'on... On a cette capacité d'accueillir autant d'entreprises?
On va être en mesure d'arriver en même temps que les mises en service des usines, mais je te dirais que un an avant la signature du premier projet à Bécancour, la Société du Parc a démarré ses travaux d'infrastructure. Donc, qu'est-ce que c'est des infrastructures? Ben, c'est des routes, c'est des voies ferrées, c'est des réseaux d'eau qu'on enfouit dans le sol, c'est le gaz naturel et tout ça. Ça fait que nous, on a commencé 12 mois avant. Et puis, toute l'ossature de ces réseaux-là existait, mais il fallait desservir les terrains au sud. Donc, ceux qui passent sur l'autoroute ont toujours vu des usines du côté nord de l'autoroute. Puis, du côté sud de l'autoroute, les services n'étaient pas là. Donc, c'était comme des terrains vagues. Donc là, il a fallu vraiment aller rapidement pour construire tout ça. Et puis, ce projet-là, c'est celui-là qui est de l'envergure d'environ 350 millions. Okay. 350 millions de dollars que mes équipes réalisent comme travaux. Et puis, on devrait terminer ces travaux-là à peu près à ce temps-ci, l'année prochaine, ça devrait être pas mal complété.
On parle de travaux majeurs, donc Donald Olivier n'est pas seul à bord. Il y a une équipe?
Oui. Oh oui, parce que
c'est... Combien, ou à peu près?
On est environ 35 personnes. Donc, lorsque je suis arrivé, c'était peut-être 18, 19, 20. Donc, on a monté à 35, mais il faut voir qu'on a un gros blitz projet à digérer. Donc, je ne peux pas engager 200 personnes d'un matin. Donc, il y a quand même beaucoup de contrats externes, de firmes d'ingénierie qui nous aident, firmes en gestion de projet. Donc, on s'assure de garder le leadership des dossiers, mais assurément, on n'a pas le choix d'aller chercher de l'aide, surtout au rythme qu'on va. Ça va très, très, très vite. Donc, et puis l'enjeu, c'est d'être prêt pour ces usines-là. Donc, je dis souvent, ce qui a été dur à négocier avec les entreprises qui sont venues, ce n'est pas le prix de vente du terrain. C'est les négociations de date pour les services. OK, j'ai besoin de tel service à telle date. Donc, c'est là que ça a été difficile et challengeant, et ça l'est encore.
On disait aussi dans ton travail, Donald, tu ne voyages pas tant que tu reçois plutôt des gens de l'extérieur, soit des promoteurs, soit via Investissement Québec, je pense, le canal.
Oui, ma vie a changé. Moi, quand j'ai changé d'emploi, là, j'étais beaucoup sur la route à Hydro-Québec. À un certain moment, je pense, 600 employés à peu près, répartis un peu partout. Et là, ce qui est particulier, ce qui est agréable dans un sens, c'est que les investisseurs qui sont intéressés par Bécancour veulent voir Bécancour. Donc, quand ils débarquent à Montréal, c'est pas trop long qu'ils arrivent à Bécancour. Donc, je me déplace pratiquement plus parce que l'intérêt pour Bécancour est vraiment là, mais les gens veulent le voir. Donc, il y a quand même beaucoup de visites. Je calculais le nombre de répertoires de gens qui ont été intéressés un jour ou un autre par Bécancour. Évidemment, on s'entend qu'on ne ferme pas toutes ces opportunités-là, mais je pense que je t'ai rendu à 70.
Wow.
Donc, il y a quand même beaucoup d'engouement. Puis, ce qui se passe, ça crée beaucoup d'intérêt aussi. Puis, Bécancour a gagné beaucoup en crédibilité en très peu de temps. T'sais, en 2 ans, on est passé d'un peu inconnu à l'international. Aujourd'hui, la semaine passée, un Australien qui vient nous rencontrer, puis il dit « Bon, je voulais voir c'était quoi Bécancour, j'arrête pas d'en entendre parler en Australie, je voulais voir ce que c'était. » Et donc, c'est un investisseur et des gens qui sont là pour financer des projets. Fait que donc, ça a évolué beaucoup en peu de temps.
Donc, le développement depuis 2-3 ans particulièrement, filière batterie entre autres, là, c'est vraiment… Il y a un rayonnement international inévitablement.
Oui, moi je suis surpris parce que j'ai pas le temps de voyager, je suis tellement occupé, mais quand on regarde la perception que les gens, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, qu'ils ont, l'Australien de la semaine passée, puis même on se fait parfois citer comme modèle dans le sens que c'est allé très très vite et puis c'est pas juste des... Tu sais, c'est vraiment, quand on vient à Bécancour, on voit là des milliers de mètres cubes de béton coulé, des structures d'acier érigé, tout ça. Donc, ils voient qu'elle prend forme pour de vrai, la filière batterie ici. Fait que donc, excuse-moi l'anglicisme, non, mais les gens parlent d'un hub nord-américain, le hub canadien assurément. Donc, les gens qui nous observent, c'est un peu ce qu'ils disent de nous, qu'on est devenu un carrefour incontournable là, dans tout ce qui se passe au niveau de la filière batterie.
Parce que, faut se le dire honnêtement, à son recul de 2-3 ans, il y avait du scepticisme dans la population. Bon, on a déjà vu des grosses annonces, ouais. Puis finalement, ça s'est rien passé. Mais là, la particularité, c'est souvent, ça se construit avant qu'il y ait les annonces.
Oui, exactement. Puis le scepticisme des gens, il était compréhensible. Hein. Moi aussi, je suis un citoyen, je l'ai vécu, je l'ai entendu, les annonces, les travaux n'arrivent pas. Là, on vit l'inverse. Il y a une pelle mécanique qui commence à creuser sur un terrain, puis il n'y a pas d'annonce de fait encore.
Ça, c'est spécial, c'est particulier. Ça.
Oui, oui, oui. Puis je pense que chacun des projets, ça s'est passé comme ça. Mais il fallait qu'il y ait du béton qui se coule puis des structures qui se montent, je crois, pour que les gens comprennent que c'était vrai cette fois-ci.
Et donc, c'est vraiment bien parti. Puis d'ailleurs, ça sera le sujet de notre prochaine émission la semaine prochaine, de voir la filière batterie un petit peu, puis pourquoi Bécancour. Donc, ça sera fort intéressant de creuser davantage, sans jeu de mots, pour voir un petit peu comment tout ça se développe. Puis c'est réel. Alors, la semaine prochaine, ça sera notre sujet d'émission pourquoi Bécancour, d'ailleurs. Donc, Donald, je pense que pour cette première émission, on a fait un bon tour d'horizon avec des bonnes questions du public. On vous invite encore à nous écrire dans via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, et vous cliquez sur « Poser vos questions ». Alors, n'hésitez pas, ou encore par texto 819-519-9050. C'est Marc Rochette qui vous souhaite une bonne semaine et soyez des nôtres. Merci, Donald, pour ta disponibilité.
Ça fait plaisir, c'était très agréable.
On se retrouve lundi prochain à midi pour Le Parc en 30 minutes.